demander à Dieu sa bénédiction. Père de grâce, Père des lumières, viens nous éclairer et nous donner ton esprit pour qu'ensemble nous puissions découvrir la profondeur de ton amour et que nous puissions y répondre. Demander à Dieu sa bénédiction. Père de grâce, Père des lumières, viens nous éclairer et nous donner ton esprit pour qu'ensemble nous puissions découvrir la profondeur de ton amour et que nous puissions y répondre comme tu le désires, pour notre bonheur et celui de tous ceux que nous côtoyons journellement. Amen. Eh bien, mes amis, en ce matin du 21 novembre 1981, en prêtant le thème « La vie chrétienne, un choix quotidien », nous voulons commencer cette première étude en nous arrêtant spécialement sur cette question « Qu'est-ce que la vie chrétienne ?» Et nous allons voir ses caractères et ses manifestations et nous demander si vraiment nous possédons cette vie. Vous qui étiez là hier soir, vous me pardonnerez si je reviens très brièvement sur ce que j'ai déjà dit pour les personnes qui n'étaient pas présentes avec nous dans notre première rencontre qui était l'introduction à cet retrait. En vous souhaitant la bienvenue dans ce lieu, nous avons annoncé que Dieu lui-même vous y accueillait et qu'il avait pour chacun de vous un projet de paix et non de malheur. Et nous rappelions que le bienveillant dessein de Dieu était d'éclairer votre passé, votre présent et votre avenir et de vous donner véritablement une espérance. Et cette espérance, nous la trouvions dans Jérémie 29, verset 11. Ceux et celles qui ignoraient encore ce que signifie le nom de Mahanaïm ont pu, nous l'espérons, être éclairés. Nous avons précisé que ce nom était un nom hébreu qui signifie deux camps, ou plus simplement, le camp de Dieu. C'est le nom que le patriarche Jacob donna au lieu où les anges de Dieu le rencontrèrent à l'improviste, alors qu'il revenait dans son pays après 20 années d'exil. Cela, vous le trouvez dans Genèse chapitre 32. Jacob était donc dans l'angoisse. Ésaü, son propre frère, venait à sa rencontre avec 400 hommes armés. Qu'allait faire ce frère qui, 20 ans plus tôt, voulait le tuer et qui avait été la cause de son exil? Voyez-vous, je viens de passer de nouveau un temps en Israël et cette haine d'Ésaü et de Jacob, vous la trouvez encore. Il y a de l'angoisse aussi bien du côté des Arabes, des Palestiniens, que du côté des Juifs. C'est quelque chose d'effroyable de vivre là dans ces villes où cohabitent dans la vieille ville de Jérusalem, des Arabes et aussi des Juifs, et où chacun se demande si une bombe ne va pas subitement sauter et ravir un être qui l'aurait cher. Car moi, quand je vois les larmes d'une femme arabe ou les larmes d'une femme juive, eh bien, elle m'exprime ses larmes, la même douleur d'un cœur déchiré. Et je me dis, c'est insensé. Et de penser que des nations puissantes, que ce soit la Russie ou l'Amérique, au fond, financent cette guerre, financent ce conflit, ça nous déchire le cœur. Au fond, on y essaye des armes dans ces pays par main interposée. Alors, cette angoisse de Jacob, il y a des millénaires, elle existe encore face à Ésaü. Et pourtant, ce sont des frères, ce sont des races sémites. Ésaü venait à la rencontre de Jacob. Allait-il le tuer? Et voilà, tout à coup, Jacob, dans son angoisse, voit une cohorte d'anges. Il reprend courage, car Dieu lui montre par ses anges qu'il n'est pas seul et qu'il peut intervenir, qu'une protection divine lui est assurée. Alors Jacob appela ce lieu Mahanaïm, c'est-à-dire le camp de Dieu. Je ne sais pas si vous croyez aux anges, ou si cette nuit vous avez éprouvé la présence de Dieu dans votre chambre, comme j'aimerais que mieux encore, vous n'ayez pas seulement éprouvé la présence de Dieu dans votre chambre, mais dans votre cœur, et que vous ayez pu vous endormir une fois en vous sentant en paix avec Dieu, même si vous deviez avoir un arrêt cardiaque et vous réveiller dans l'autre monde. Parce que ça peut arriver, cela. J'ai vécu un deuil pendant que j'étais en Israël, justement, d'un arrêt cardiaque. C'était produit dans la nuit et on l'enterrait le même jour. C'est des choses qui arrivent. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi il est bon d'être prêt. Je ne sais pas si vous croyez aux anges, mais ce dont je suis assuré, c'est que vous formez par votre présence ici une cohorte d'hommes et de femmes dont j'ignore la vie privée. J'ignore vos peines, j'ignore vos joies, vos craintes, vos espoirs. Mais je suis convaincu qu'un plus grand que moi vous accueille ici et qu'il a pour vous une bénédiction qui dépassera ce que vous pouvez espérer et penser. Et j'espère que vous espérez quelque chose. Plus que vous espérez quelqu'un. Je vous ai annoncé également hier soir que nous consacrerions cette première étude biblique à vérifier premièrement ce qu'est la vie chrétienne, pour savoir si nous la possédons, afin que cet après-midi, nous puissions nous pencher sur les choix quotidiens qu'une telle vie nous amène à faire dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, de parler et d'agir dans ce monde. Car si nous avons cette vie chrétienne, elle influence tout notre comportement dans ce monde. Ce matin, je vous ai donc demandé de lire dans vos chambres trois portions de l'Écriture sainte pour que vous puissiez retrouver d'abord le sens de ce mot chrétien. Voyez-vous, je ne suis pas un homme qui essaye de vous bourrer le crâne ou de vous faire un lavage de cerveau. J'essaye de vous mettre en contact personnel avec l'Écriture sainte, de sorte que vous pouvez toujours contrôler nos sources. Vous avez tous une Bible, je l'espère du moins, et vous êtes assez intelligent pour savoir si ce que je vous dis est fidèle à cette source. Vous avez donc lu ce matin un premier passage dans le livre des Actes, et vous savez, mon secret espoir, c'est que ça vous ait tellement intéressé quand même cette portion du chapitre 11 que vous ayez déjà pris la décision, quand je rentrerai chez moi, je m'en vais lire tout le livre des Actes, pour avoir tout ce contexte. Parce qu'au fond, c'est cela. Quand on prend un livre et qu'on l'ouvre à une certaine page, on n'est pas très satisfait. Si vous voulez vraiment avoir la connaissance d'un livre, eh bien, vous prenez votre livre à la première page et vous le lisez jusqu'à la dernière page. Eh bien, vous pouvez en tout cas commencer par le premier chapitre des Actes pour vous rendre compte du contexte de ce que vous venez de lire ce matin. Alors, nous en restons à ce chapitre 11, versets 19 à 26, où vous avez donc découvert l'origine de ce mot chrétien. C'est dans la ville d'Antioche que pour la première fois, le monde païen de ce temps a donné ce nom de chrétien aux hommes et aux femmes qui se disaient disciples de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas à Jérusalem qu'on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens, c'est dans le monde païen. Et c'est à Antioche que les païens eux-mêmes ont appelé les disciples de Christos, de Jésus, des chrétiens. Il s'agissait donc d'un sobriquet qui désignait ces gens qui, venus du judaïsme, donc de la religion juive, ou du paganisme, ceux qu'on appelait les Grecs, mettaient leur foi en un certain Jésus crucifié quelques années auparavant à Jérusalem, lorsque Ponce Pilate était procurateur de la Judée, le gouverneur romain. Et vous savez, à Césarée, justement, on peut voir encore une pierre où le nom de Pilate est gravé, de sorte que c'est un fait tout à fait historique. Vous connaissez aussi votre credo, Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate. Et nous sommes tous d'accord pour réciter ce même credo qui exprime notre foi. Donc nous ne sommes pas dans une légende ou dans un mythe. Du reste, si nous sommes en 1981, c'est que nous reconnaissons tous, quelle que soit notre religion ou notre athéisme, que un certain homme, Jésus-Christ, a donné son nom à notre ère. Sinon, nous ne serions pas en 1981. 81. C'était donc un sobriquet. Comme je l'ai dit en parlant des sœurs grises, vous savez que nous sommes dans une maison des sœurs grises, et j'avais demandé une fois, je l'ai déjà dit l'autre jour, pourquoi avez-vous une robe brune alors qu'on vous appelle sœur grise? C'était une réflexion d'un ignorant comme moi. Et alors, on m'a répondu, eh bien, au début de l'arrivée des sœurs et de leur travail au Canada, elles ont été accusées de s'émigrer. On les disait grises, c'est-à-dire qu'elles buvaient. Et par humilité, elles ont gardé ce nom, qui était donc péjoratif. Par humilité, elles se sont appelées sœurs grises. Vous pouvez demander à sœur Alma, la supérieure, si je vous raconte des bêtises. Bon, eh bien, c'était un peu la même chose. Au fond, le nom chrétien, c'était pas un nom honorable, c'était un nom de mépris que l'on donnait à ces gens qui suivaient ce certain Jésus crucifié sous Pilate, mais que ses premiers disciples qui vivaient encore affirmaient vivant, affirmaient ressuscité. Alors, rendez-vous compte, pour un juif religieux, une telle foi était absolument scandaleuse. dire qu'un crucifié était leur sauveur, c'était purement scandaleux. Pour quelle raison? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans leur Bible, dans les Écritures, il était écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc, ce Jésus, s'il avait été crucifié, c'était donc la preuve qu'il avait été maudit par Dieu. Du reste, si vous lisez les évangiles, vous verrez que les gens qui passaient devant le calvaire, devant la croix, ne se gênaient pas pour apostropher celui qui pendait au bois par les mains clouées et ses pieds percés, et on lui disait « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, que Dieu te délivre, tu t'es confié en Dieu, bien qu'il te délivre maintenant. » Et quand on l'a entendu dans cette nuit profonde qui a envahi tout à coup tout le pays à l'heure de midi, qui est la sixième heure, et jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, et qu'on a entendu cette voix disant sous le ciel, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, c'était clair, Jésus mourait dans la détresse, dans le désespoir. Et au fond, on s'était laissé illusionner par son talent à raconter des histoires absolument prenantes, c'est vrai, le bon berger, la brebis perdue, le bon samaritain, qui ne connaît pas ces histoires inimitables de Jésus, l'enfant prodigue. Et puis, évidemment, il avait fait des miracles, on ne pouvait pas nier qu'il avait fait des miracles. Mais maintenant, le grand thaumaturge, j'étais là, cloué entre deux brigands, entre deux malfaiteurs. Et puis, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, vous croyez que ceux qui passaient par là avaient quelque compassion pour Jésus? Une semaine avant, on l'acclamait dans les rues de Jérusalem. On l'acclamait comme le roi débonnaire qui venait assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et la foule en liesse ce jour des rameaux disait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et en quelques jours, il y avait eu un retournement complet. Vous savez ce que font les foules, hein? Faites attention, ne devenez jamais l'idole des foules. Les foules font de vous une idole, et puis tout à coup, on brise l'idole. J'ai vécu en Italie, je me souviens d'avoir entendu ces foules crier « Viva il Duce, viva il Duce !» Et puis, vous savez aussi comment après on a vu le Duce avec sa maîtresse, la Petacci, pendue par les pieds dans la ville de Milan, et on crachait contre leur visage. Les idoles de ce monde, la gloire de ce monde. C'est Hitler qui a fait trembler les nations et qui finit lui aussi avec Eva Braun dans ce bunker de Berlin d'une façon si misérable et dont on brûle les corps. La gloire de l'homme. Mais pour Jésus, il n'y a pas de pitié. On se moque. Quand il est encore vivant, quand il agonise, ce n'est pas un mort qu'on insulte. C'est un mourant, le mourant du calvaire. Alors que toute la nature entière se voile la face, ne peut pas, en plein midi, contempler un tel tableau, son créateur, mis en croix par ses créatures, le soleil se voile. Et c'est la nuit. Et bientôt, quand il aura expiré, des sépulcres s'ouvriront, des morts ressusciteront, les rochers se fendront, la terre tremblera. Mais le cœur des hommes restera dur et insensible. Ah, ils ont peur. Ils sont impressionnés, mais on cherche à trouver une explication. C'est une éclipse totale, oui. Il y a déjà eu des éclipses, mais il y en a une juste à ce moment-là. Alors on essaye de se rassurer, et puis vers 3 heures, les ténèbres se dissipent. Et alors, on se rassure, on se prépare à célébrer le sabbat, la fête où l'on va adorer Dieu, où l'on va se reposer. Alors que Jésus sera descendu dans un tombeau, dans un sépulcre. Oui, vous comprenez, ces disciples, après Pâques, ont prétendu que ce Jésus était ressuscité des morts. Et alors pour les Juifs, c'était dur de croire une chose pareille. Et puis, pour les Grecs bien pensants, mettre sa confiance dans un crucifié, c'était une pure folie. Scandale pour les Juifs religieux, et pour les Grecs, folie. C'est ce que nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 21. Mais pourtant, pour ceux qui avaient cette foi, eh bien, eux, ils affirmaient quelle était pour eux la puissance de Dieu qui avait changé leur vie. C'était le témoignage que les premiers disciples des disciples, enfin, rendaient ce nom de Jésus auquel ils avaient complètement adhéré du cœur, avait changé leur vie, et ils avaient voulu se faire baptiser, c'est-à-dire immerger complètement dans l'eau pour signifier que, comme Christ était mort, eux aussi acceptaient de mourir à leur vie passée, et en sortant de l'eau, ils confessaient que comme Christ était ressuscité, était sorti du tombeau, selon le témoignage de ses disciples, eux aussi commençaient une vie vraiment nouvelle. C'était là le sens du baptême. Et ils confessaient publiquement leur foi en demandant le baptême. Baptiser veut dire immerger, et ils faisaient à ce moment-là, tous sont d'accord, pour reconnaître que c'était une immersion totale, image d'une identification avec le Christ dans sa mort et d'une résurrection, d'une vie nouvelle avec le Christ ressuscité qui vivait en eux. Et ce changement de vie ne pouvait être nié ni par les Juifs, ni par les Grecs. Et si je vous ai demandé de lire ces textes, c'est parce que je sais que la foi personnelle et individuelle vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aussi je vous ai demandé, je ne sais pas si vous avez suivi mon conseil, je vous demandais de lire cela à haute voix. Car saint Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne pensez jamais que la foi va vous tomber dessus comme une colombe qui descendra du ciel. La foi, elle germe à l'ouïe de la parole de Dieu. On l'écoute, et tout à coup, on dit, mais c'est la vérité. C'est vrai, et c'est ça la foi. La foi, c'est pas croire que Dieu existe, c'est croire sa parole, c'est croire ce que Dieu nous dit. Or, je me demande, qu'avez-vous entendu en lisant ces paroles d'Actes 11, verset 19? Bien, vous avez vu qu'il y avait une grande persécution à l'occasion de la mort d'Étienne. Alors, quand vous lisez ce nom d'Étienne, évidemment, je pense que vous vous êtes rappelé que Étienne était le premier martyr chrétien à Jérusalem. Il y a à Jérusalem la porte de Saint-Étienne où la tradition nous montre un endroit où Étienne aurait expiré sous la lapidation. Étienne était un jeune homme qui avait cru au Seigneur Jésus et qui avait un tel courage qu'il avait osé, devant tout le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal des Juifs, les plus hautes autorités juives, il avait osé prendre position pour Jésus-Christ en disant que ce Jésus était réellement ressuscité. C'était un Juif, Étienne. Et il exhortait les Juifs en leur disant, mais vous connaissez les Écritures, et j'aimerais que vous relisiez au chapitre 7 du livre des Actes, ce fameux discours d'Étienne, comment il montre qu'il a une connaissance de tout l'Ancien Testament. Alors, quand il est dans cet Ancien Testament, qu'il parle des patriarches, qu'il parle de Moïse, qu'il parle des prophètes, on l'écoute très respectueusement et dans le silence. Mais quand tout à coup, il s'écrie « Lequel des prophètes n'avez-vous pas persécuté ?» Puis il arrive à Jésus en montrant qu'ils ont mis le comble à la mesure de leur père en crucifiant le seul être qui n'avait jamais péché et qui venait leur apporter des paroles de grâce et de vérité. Alors il est dit que les gens ont commencé à grincer des dents et on a saisi Étienne, on l'a traîné hors de la ville et on l'a mis à mort en le lapidant avec des pierres. Et il est dit que pour être plus à l'aise pour lancer les pierres, ils avaient tombé la veste, si j'ose dire. Peut-être qu'ils n'avaient pas des vestes style que nous avons, mais enfin, ils s'étaient dévêtus pour être plus à l'aise dans leurs mouvements, et leurs habits, ils les avaient mis aux pieds d'un jeune homme, d'un jeune rabbi juif, qui s'appelait Saul de Tarse, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne et qui regardaient le sang d'Étienne couler. Et ce Saul de Tarse, qui est devenu justement l'apôtre Paul, avait donc consenti lui-même à la mort d'Étienne, car lui était un défenseur de la religion de ses pères. Et vous savez donc comment Étienne mourut, en témoignant qu'il voyait Jésus debout à la droite de Dieu, ressuscité. Donc, il témoignait encore de la résurrection de Jésus. Et quand il mourut en ayant des paroles très semblables à celles de son maître, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était en quelque sorte la même voix, les mêmes paroles. Ne leur impute pas ce péché. Et ensuite, alors, on apprend donc dans ces passages que la persécution s'est étendue et que beaucoup de personnes ont dû fuir. Ce fut l'exil depuis cette persécution d'Étienne. Pour tous ceux qui s'étaient convertis au Seigneur, ils ont dû s'exiler, quitter Jérusalem, quitter leur patrie, et c'est ainsi qu'ils sont allés à Chypre, et comme vous l'avez vu, jusqu'à la ville d'Antioche. Et que faisaient ces gens qui vivaient vraiment une grande détresse et une tragédie? Ils avaient tout perdu à cause de leur foi, leurs relations familiales, leur patrie, et pourtant, là où ils allaient, dans ces terres étrangères, ils apportaient une bonne nouvelle. Ce n'étaient pas des grands quêteux, comme on en voit quelquefois au Canada. C'était des gens qui avaient quelque chose encore à donner. Ils n'avaient pas d'or, ils n'avaient pas d'argent, mais ils parlaient avec joie de celui qui remplissait leur cœur, Jésus, pour qui Étienne avait consenti à mourir. Et alors, ces Juifs retrouvaient d'autres Juifs de la diaspora, mais des Juifs qui fréquentaient la synagogue, et c'est vers eux qu'ils allaient d'abord pour leur parler de ce Jésus et essayer de les convaincre par l'Ancien Testament, parce qu'il y avait, donc les Écritures dans toutes les synagogues, de les convaincre que ce Jésus qui était mort était bien celui que les prophètes avaient annoncé depuis des siècles. Et que non seulement ce Jésus était venu, que non seulement il était mort, mais il déclarait que cette mort été voulu par Dieu pour le rachat de l'humanité tout entière, que c'était par la vie donnée de cet homme que les Juifs d'abord pouvaient être rachetés, sauvés. Le salaire du péché, c'est la mort, et il déclarait que on ne pouvait pas être purifié vraiment par les sacrifices d'animaux, du sang des taureaux et des boucs, et qu'il avait fallu le sang précieux de celui que Jean-Baptiste, patron du Canada, du Québec, hein, que Jean-Baptiste désignait comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il proclamait que Jésus avait vraiment versé son sang, donné sa vie pour racheter l'humanité. Et que cette vie avait un tel prix aux yeux de Dieu que Dieu pardonnait à l'humanité tout entière si cette humanité acceptait ce sauveur. Si par un seul homme, le premier Adam, le péché était entré dans le monde, par un seul homme, Jésus, dernier Adam, venu des siècles après cette faute, des millénaires après cette faute, eh bien, ce Jésus était celui que Dieu donnait au monde comme moyen de salut. Au fond, ils annonçaient que ceux qui voulaient avoir la paix avec Dieu n'avaient pas besoin de faire des efforts sans fin pour essayer de plaire à la divinité ou de se racheter d'une manière ou d'une autre, que Dieu ne traitait pas avec l'homme moyennant l'argent de ces hommes, car alors les pauvres n'auraient pas pu être sauvés. Et il disait, ce n'est ni par de l'argent, ni par de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, c'est par la vie donnée de Jésus-Christ. De sorte que tous, pauvres ou riches, vous pouvez être sauvés en mettant votre confiance dans les mérites de Jésus-Christ. C'est bien ce que Jean 23 disait sur son lit de mort. Quant à mon salut, je mets entièrement ma confiance dans les mérites du Seigneur Jésus sur la croix. Et c'est par cette vie donnée et par cette vie seule que les Écritures nous déclarent que l'on peut être sauvé. Eh bien voilà, ces persécutés qui devaient fuir leur pays s'en allaient apporter cette bonne nouvelle à ces gens qui s'exprimaient encore d'essayer de contenter la divinité, soit en sacrifiant même des enfants, dans leur recherche d'une victime toujours plus innocente, toujours plus sainte. Ils ne sacrifiaient plus même des animaux, mais on arrivait à sacrifier des enfants, quelle abomination. Mais on n'avait pas compris qu'il fallait le sacrifice de Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, que l'homme n'avait pas reconnu lors de la création, il a été manifesté dans la rédemption de l'humanité. Dieu lui-même, créateur, prenant la responsabilité du péché de sa créature, comme un père prend la responsabilité des actes de ses enfants, et Dieu décidant de racheter lui-même l'humanité en donnant son propre Fils. Dieu était en Christ, est-il dit, réconciliant le monde avec lui-même. Quelle chose merveilleuse! Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché la mort a passé à tous les hommes, puisque tous ont péché, dit saint Paul, par la justice d'un seul Jésus-Christ, tous ces hommes pécheurs peuvent être rendus justes, mais il faut l'accepter. Il faut accepter cette grâce de Dieu. Dieu qui aurait pu anéantir le monde entier et l'humanité, qui a montré sa méchanceté en crucifiant le seul être qui était bon et qui était juste, eh bien, Dieu dépasse tout cela et ses grâces à tous ces coupables, qu'ils soient païens ou qu'ils soient juifs. Car comme je disais en 1953 dans une conférence à Tunis, où je me trouvais face à 500 juifs, c'était bien avant Vatican II, et je devais leur parler de la gloire d'Israël, mon sujet c'était la gloire d'Israël, et Je me disais, mais comment ils vont me lapider quand je pensais à Étienne? Comment vont-ils accepter? Quand je suis arrivé, après avoir parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, arrivé à Marie, à Jésus-Christ, et à ce moment où juifs et païens sont réunis dans cette terre de Palestine, où les juifs livrent Jésus, qui est un des leurs, Jésus était juif, ils livrent Jésus à Pilate, après l'avoir eux-mêmes condamné à mort, mais comme ils ne peuvent pas l'exécuter, ils le livrent au procurateur romain, qui peut délivrer Jésus, ou qui peut exécuter la sentence que les juifs ont prononcé contre lui. Alors donc, il y a responsabilité et des juifs et des païens. Alors moi je me trouvais devant des juifs. Et tout à coup, j'étais saisi par l'Esprit de Dieu et je leur ai dit, vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. Parce que je me mettais dans les païens romains. Vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. Donc c'était pas le peuple déicide. On a enlevé ce fameux mot peuple déicide que l'Église, évidemment, a eu si longtemps et qui est la cause de toutes les persécutions que l'Église a fait contre les Juifs, parce qu'on disait que c'était le peuple qui avait tué Jésus. Vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. En faisant taire notre conscience, parce que Pilate, représentant de ceux qui étaient guidés par leur conscience, Pilate n'a pas écouté sa conscience. Sa conscience lui disait que Jésus était innocent, qu'il était juste. Sa femme lui faisait dire, n'ai rien à faire avec ce juste. Mais, voulant plaire aux foules, à cause de sa situation, quand tout à coup les juifs, les chefs religieux ont dit, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de qui? De César, hein. Vous voyez comme ça nous touche tout à coup. Et cet homme qui pouvait dire à Jésus, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher, le pouvoir de te crucifier? Et que lui disait Jésus, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Et malgré qu'il avait ce pouvoir, Pilate a peur, il est paralysé par la crainte des hommes, c'est sa situation qui est peut-être en jeu. Il fait ce geste écœurant du lavage des mains. J'étais l'autre jour dans ce prétoire, là, on descend très profondément dans le couvent des sœurs de Sion et on trouve le lithos protos, c'est-à-dire le dallage où Jésus se trouvait environné des soldats devant Pilate. Ah, vous savez, cela vous fait quelque chose de penser que tout cela a eu lieu sur la terre. Et on voit encore dans le dallage le charret des Romains, des soldats romains qui jouaient au charret pendant que Pilate jugeait les condamnés. Et nous sommes là, on se dit, Jésus a été là et il gardait le silence. Il gardait le silence et l'iniquité des iniquités s'est accomplie. Ah, vous dites, mais moi je ne suis pas Pilate. Vous n'êtes pas Pilate. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas accepté jusqu'à ce jour? Pourquoi avez-vous des réticences pour Jésus? Relâche-nous Barabbas. Barabbas était un brigand. On a préféré un brigand à Jésus. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui cela a le mal dans le monde? Que ce soit le crime, que ce soit la violence, que ce soit le meurtre, quand ceux qui devraient exercer la justice n'écoutent que leur intérêt personnel et violent le droit et violent la justice. Jésus s'est laissé crucifier. Et alors, quand ces premiers disciples qui connaissaient l'exil, qui n'avaient donc aucun intérêt à faire du prosélytisme, bien quand ils parlaient même aux Grecs, les Grecs commençaient à réfléchir. Et puis on voyait ces gens tellement heureux, alors que leur bonheur ne venait pas de leur situation. Ils étaient des malheureux quant à leur situation. Des sans patrie, des sans argent, Et puis pourtant, il louait le Seigneur et il le bénissait. Et ils mettaient tout en commun, ils s'aidaient les uns les autres. Le peu qu'ils avaient, ils le mettaient en commun, en travaillant de leurs mains. Ce n'étaient pas des paresseux. Ils ne se mettaient pas sur le bien-être social pour un oui ou un non. Ils n'avaient pas à ce moment-là. Alors, c'était quand même un témoignage. C'était des gens qui avaient quelque chose qui allait mieux. Ils avaient quelqu'un qui les habitait, et on sentait cette présence divine en eux. Ils ne pouvaient plus fréquenter le temple de Dieu à Jérusalem, mais on se rendait compte que leur cœur était devenu un véritable temple, et qu'à leur contact, on était en contact avec Dieu lui-même. Ça, c'est le vrai christianisme de l'Église primitive, qui n'était pas seulement en parole, mais qui était en action. Donc, après avoir essayé de partager ce qu'ils avaient reçu à leurs compatriotes juifs de la diaspora, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas à Jérusalem, ils se sont enhardis et ils ont pensé que ce message pouvait aussi apporter la paix et la délivrance aux Grecs qui étaient fatigués de Rome, qui étaient fatigués de ce paganisme, de cette idolâtrie, de tous ces dieux de l'Olympe ou de Rome, et qui cherchaient la vérité. Regardez un Socrate, il cherchait la vérité, même au moment où il buvait la ciguë. C'étaient des gens qui étaient dans l'attente d'une révélation, ils n'en pouvaient plus, ils étaient arrivés vraiment à la fin d'un âge. Et puis, c'était les pauvres de la terre, venus de Jérusalem, qui leur apportaient ce message. Et vous avez lu qu'il est dit, la main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre d'hommes se convertissaient au Seigneur. Et j'espère bien que maintenant vous savez ce que ça veut dire, la conversion, c'est pas un changement de religion. Et moi je ne vous demande pas de vous convertir en disant changer de religion. Une conversion, c'est un changement de vie, c'est un changement d'orientation. Quand on est au service militaire et que je suis face à cette horloge et qu'on me demande de faire une conversion, demi-tour, qu'est-ce que je vois? Je ne vois plus l'horloge, je vois le tableau. Hein. C'est un demi-tour, c'est un changement de direction, c'est un changement d'orientation, c'est un changement de pensée. Je ne vous dis pas de quitter votre église, de quitter votre religion, je vous dis quitter votre ancienne manière de vivre et accepter la voie du Seigneur. Le Seigneur est sur votre chemin, vous le rencontrez et vous faites demi-tour pour remonter avec lui. Parce que lui est descendu au plus bas pour fermer le gouffre vers lequel vous avancez à grands pas, parce qu'il voudrait réellement vous sauver de cet abîme de malheur qui vient sur ce monde. Il se convertissait au Seigneur. Et alors la nouvelle de ce changement de vie s'était répandue rapidement jusqu'à Jérusalem, d'où les apôtres, qui étaient encore en vie, ont envoyé un certain Barnabas pour constater ce qui se passait. Et vous savez, ce Barnabas était un homme qui était très remarquable. Il était riche, vivant à Jérusalem. Et il avait eu à cœur de donner sa fortune pour les apôtres et pour ceux qui se convertissaient. Parce que ceux qui se convertissaient, et c'est encore le cas maintenant, on les expulsait de la synagogue, on leur ôtait leurs moyens de vivre, de sorte que ces communautés que nous voyons dans l'Église primitive, c'était pas des communautés comme on en voit aujourd'hui où on veut vraiment se mettre en communauté chacun. C'était des communautés qui étaient obligées de se créer. On les chassait. Alors celui qui avait une maison et qui était au Seigneur les accueillait. Et puis ceux qui avaient des biens, eh bien pensaient que ces gens-là, auxquels on ne voulait plus donner de travail, on leur coupait les livres, on leur coupait les moyens d'existence, il fallait quand même qu'ils vivent, et alors ils se disaient, mais au lieu que moi je garde mon magot pour moi, hein, c'était pas du capitalisme, eh bien ils apportaient leurs biens aux pieds des apôtres, et Barnabas, lui, il avait vendu un champ, et il avait apporté la somme aux pieds des apôtres. C'était donc un homme remarquable. Son nom veut dire « fils de consolation ». Et il était réellement une consolation pour l'église persécutée de Jérusalem. Alors quand Barnabas vient à Antioche, il voit quoi? Vous avez lu? Il est dit qu'il a vu la grâce de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? On voyait dans ces hommes la grâce de Dieu. Voir la grâce de Dieu, c'est voir des gens vraiment heureux, des gens qui ne sont pas au bout de leurs ressources, mais qui ont de nouveaux moyens, des gens qui n'ont pas le secours du monde, qui n'ont pas les assurances sociales, et qui sont pourtant heureux. Ils dépendent du Créateur. Ils sont devenus comme des petits oiseaux. Vous voudriez devenir comme des petits oiseaux? C'est peut-être bien heureux, les oiseaux n'ont pas de soucis, disait Jésus. Non. Les oiseaux, regardez-les, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant leur Père Céleste les nourrit. Et Jésus disait, mais vous, vous valez beaucoup mieux qu'eux. Bien voilà des gens qui ne se faisaient plus toujours du souci pour tout, mais qui croyaient que Dieu pouvait pourvoir à leurs besoins. Est-ce que vous êtes encore de ces gens qui croient que Dieu peut pourvoir à vos besoins? Je pourrais vous en raconter des choses merveilleuses. Quand on s'abandonne à la providence divine et que l'on est à son service, Dieu ne nous laisse pas, Dieu ne laisse jamais tomber celui qui se confie en lui. Et si vous prenez les promesses de Dieu au sérieux, vous verrez que lui aussi vous prend au sérieux. Et vous ne serez plus de ces déçus de la providence. Vous serez de ceux qui louent le Seigneur. Pas parce qu'il fréquente un milieu où l'on s'exalte, où l'on dit des alléluia à n'en plus finir, où l'on chante toute espèce de cantique, où l'on vous fait toute espèce d'imposition des mains, enfin, tout cela, non, vous pouvez peut-être le faire, mais c'est pas ça du tout qui se passait dans l'église primitive. C'était des gens qui avaient encore leur bon sens, aucune exaltation, mais ils louaient le Seigneur et ils en rendaient témoignage. Et le monde a été tellement impressionné qu'à ces gens-là, on a donné le nom de chrétiens. Ils s'étaient convertis au Seigneur. Et vous savez qu'on a tous besoin de se convertir, même un évêque, même un cardinal, et je ne m'avance pas trop, puisque Monseigneur Riobé, vous pouviez lire cela aussi dans l'Express, l'évêque d'Orléans, une ville de France, il est mort il y a 3 ans, a écrit un livre où il raconte sa conversion. Il s'est converti une fois évêque. Parce qu'on peut être nommé évêque, on peut être prêtre, on peut être pasteur, sans être converti, sans avoir cette vie authentiquement chrétienne, parce que pourquoi? On est chrétien, on est prêtre, on est pasteur, mais par tradition, parce que c'était peut-être une promotion sociale. On me l'a dit souvent ici, dans cette salle même, au Québec, que on passait dans, à un certain moment, on passait dans les écoles, puis on disait aux enfants que celui qui voulait devenir prêtre, eh bien l'Église se chargerait de son éducation. Et si c'était une famille de 12 ou 15 enfants qui ne pouvait pas faire des études, eh bien au moins celui qui deviendrait prêtre serait un homme considéré. Et puis le salut de la mère était fait par ce moyen-là. Alors évidemment, c'était assez tentant. Et vous savez, c'est pas seulement au Québec, en France et en Suisse, dans nos bonnes familles protestantes, c'était bien souvent la même chose. Il y en a un qui avait fait la carrière militaire, alors ça faisait bien, un autre faisait la carrière le barreau, un troisième la médecine, et pourquoi pas le quatrième, pourquoi pas ne pas être pasteur ou prêtre. Et c'est ce qu'on a souvent remarqué, le fils qui était pasteur, bien puisque dans le protestantisme on se marie, il devait se contenter d'une fille assez laide. pour quelle raison? Parce qu'on disait, il doit être spirituel, le pasteur, alors il peut bien se contenter d'une fille assez laide, mais c'était une fille riche. Du moment qu'elle était riche, ça compensait la laideur, parce que, évidemment, le médecin pouvait faire fortune, l'avocat aussi, mais le pasteur, ben, il lui faudrait quelquefois un peu de beurre sur les épinards. Alors, une femme pas trop belle, mais qui avait un magot, eh bien, ça aidait quand même. Ça aidait quand même. Je vous dis la vérité, ça. C'est pas simplement pour vous détendre et vous faire rire, mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Alors, donc, on peut être nommé pasteur, on a fait ses études, on a ses titres, tout cela, mais au fond, on n'a pas une relation vivante avec Dieu. Alors, on est des fonctionnaires, on baptise, on marie, puis quoi? On enterre. Pompe funèbre. On enterre. Bon, on veut quand même pas être enterré comme un chien, ça fait quand même bien. Qu'on lui met ou l'oraison funèbre. Et oui, c'est ça. Alors, c'est ça le christianisme, c'est ça la vie chrétienne. Mes amis, oh, je sais que vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes des gens sensés et que vous comprenez ce langage qui peut-être vous paraître un peu fort, mais qui est un langage d'amour parce que nous voulons aller jusqu'au fond. Alors, vous avez lu après ce récit, un second récit, l'histoire de ce Paul, qui avait consenti, lorsqu'il s'appelait encore Saul de Tarse, à la mort d'Étienne. Et je vous demande de relire ce chapitre et de voir comment il a présenté ce qui s'était passé en lui. Parce que ça, c'est de l'authentique. Lui raconte sa conversion devant toute une foule de notables, Festus en tête, avec ses hôtes, le roi Agrippa de Jérusalem, donc un juif, mais qui vit avec sa propre sœur Bérénice, au sud de tout le monde, c'est l'inceste. Et Paul doit parler devant ces gens-là. Et vous croyez qu'il les méprise? Oh, c'est bon. Il ne leur a pas dit, vous n'êtes pas des sauvés. Misérable, hein. On évangélise le Québec de quelle façon? Alors, non, il ne leur dit pas ça. Il parle avec respect. Et il ne dénonce pas même cette liaison coupable de Bérénice et d'Agrippa. Mais il dit ce que Dieu a fait pour lui. Il a assez à se juger lui-même. J'étais un persécuteur, j'étais un outrageux. J'étais un homme sincère dans ma religion, mais j'étais un fanatique. J'étais absolument sincère. Je croyais que les disciples du Christ étaient des menteurs, des trompeurs. Et j'avais un souci pour ma religion. Alors j'avais demandé des lettres aux autorités juives pour apporter aussi la persécution, l'arrêt de l'expansion de l'évangile jusqu'à Damas. Et puis voilà, alors que j'étais dans ces sentiments, je suis bouleversé, en plein midi, je tombe et j'entends une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et vous savez, tous écoutent en silence. Puis je dis « Mais qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et lui aussi apprend que c'est Étienne qu'il a vu mourir. Ne mentez donc pas, puisqu'il avait dit « Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. » Alors pour lui-même, Saul à la conviction, Étienne était un témoin de Christ. Et oui, témoin veut dire martyr. Il comprend tout à coup. Et alors, quand vous avez passé par là, vous savez qu'on appelle son chemin de Damas. Est-ce que vous avez eu votre chemin de Damas? Ou je vous dirais, est-ce que vous avez eu votre Mahanaïm, c'est-à-dire votre rencontre avec le Seigneur, ou comme Job, ce tête-à-tête avec Dieu, où l'on s'écrie, où l'on fond dans la poussière, on s'écrie, j'ai horreur de moi, je me repens, parce que je te vois, Seigneur, dans cette lumière éblouissante qui aveugle Paul pour 3 jours, alors qu'il médite en prière à Damas, où on l'a conduit comme un petit enfant, eh bien, le Seigneur se révèle à son cœur et lui montre, je t'ai choisi, j'ai un plan pour toi. Je te connaissais dès les entrailles de ta mère. Je t'ai choisi et tu seras mon témoin. Et tu parleras aux nations de mon amour. C'est toi qui seras le porteur de ma parole. Et je vais te montrer combien tu dois souffrir pour mon nom. Et puis, il ajoute tout à coup, est-ce que c'est si difficile de croire à la résurrection des morts? Étant pharisien, il y croyait à la résurrection des morts. Il y avait deux sectes dans le peuple d'Israël. Il y avait la secte des Sadducéens, secte sacerdotale, qui niait les esprits, les anges, la résurrection. Puis il y avait la secte des pharisiens qui croyait à tout cela. Et Paul était justement un de ces pharisiens, un de ces orthodoxes. Il croyait à la résurrection au dernier jour, la résurrection des morts. Mais à la résurrection du Christ, il n'y croyait pas. Alors c'est pour ça qu'il dit, mais est-ce que c'est si difficile pour vous de croire à la résurrection? Mais c'est pour cela que nos pères ont combattu. Et alors il arrive avec la résurrection du Christ. Alors évidemment Festus lui dit, mais Paul, parce qu'il est impressionné Festus, lui dit, tu es fou. Ton grand savoir te met hors de sens, vous avez lu tout cela, hein? Ton grand savoir te met hors de sens. Et il dit, je ne suis pas fou. Et Agrippa, lui, connaît très bien de quoi je parle, parce qu'Agrippa était un juif, hein, qui connaissait toutes les Écritures. Et puis, alors là, Paul regarde, je pense, avec un amour incroyable, ce roi Agrippa qui l'écoute, qui est à côté de cette femme, qui est sa sœur, il les enveloppe d'un même regard d'amour, puis lui dit, Agrippa, crois-tu au prophète? Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'attend pas la réponse. Il dit, je sais que tu y crois, il a le préjugé favorable, il ne dit pas, c'est tout, ça c'est merveilleux, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit annoncer l'évangile, en croyant que ça sera reçu. Crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Puis Agrippa est tellement bouleversé, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà, voilà une vraie prédication. Tu vas bien, il ne se prêche pas lui-même, il prêche Jésus-Christ. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et comme j'aime cette fin de son discours, Paul, qui a les mains liées, lève les mains devant cet auditoire céleste, et dit, plus à Dieu que ce soit tôt, que ce soit tard, plus à Dieu que vous soyez tous comme moi, hormis ces liens, parce qu'il ne souhaite à personne 2 ans de prison à Césarée. Je voudrais que vous soyez tous comme moi, un prisonnier qui croupit dans sa prison depuis 2 ans et qui dit, je voudrais que vous soyez tous comme moi. Seulement, je ne vous souhaite pas mes liens. Et alors Agrippa trouve que c'est un innocent qu'on devrait relâcher, mais comme il en a appelé à César, il faut l'envoyer à Rome, et c'est ainsi que Paul ira gratuitement à Rome. Comme prisonnier, il n'aura pas à payer son voyage. Et c'est ainsi que la capitale sera aussi évangélisée et bénéficiera des connaissances, des grandes connaissances de ce sol de Tarse. Mais dans la troisième partie que vous avez lue, l'épître de Pierre, un autre apôtre, alors qui a connu le Seigneur durant sa vie terrestre, vous aurez remarqué que Pierre annonce que celui qui est vraiment chrétien pourrait souffrir. Alors il montre qu'il y a 2 genres de souffrance. Il dit, ne trouvez pas étrange la fournaise par laquelle vous devez passer, toutes ces épreuves que vous connaissez, mais que nul de vous ne souffre comme voleur, ne souffre comme malfaiteur, hein? Mais que si vous devez souffrir pour le nom de Jésus, eh bien, que vous n'en ayez pas de honte. Voyons, nous sommes donc à la troisième partie, hein, au dernier texte. Je n'insiste pas sur qui était l'apôtre Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. Et quel animal a réveillé sa conscience? Le coq. Et le coq chanta. Jésus lui avait dit avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et le coq chanta. Et Pierre, qui venait d'avoir eu les pieds lavés par Jésus et qui avait pu dire, je ne connais pas cet homme, dans la même nuit, vous voyez ce qu'on est capable de faire, nous. Vous me direz, mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Pierre avait dit, Seigneur, quand tous t'abandonneraient,
moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous avez encore cette idée? J'ai dû reconnaître que moi aussi je peux l'abandonner. Ne mettez pas votre confiance dans votre propre force. Pierre, saisi tout à coup de crainte, a honte d'une servante, il a peur d'être dénoncé, et il renie son maître. Je ne connais pas cet homme avec qui il a vécu pendant 3 ans. Et c'est un coq qui réveille sa conscience. Alors ce Pierre écrit cette lettre aux croyants persécutés et qui sont outragés pour le nom de Jésus, et il leur dit, mais vous êtes bien heureux, si vous devez souffrir pour le nom de Jésus, mais soyez heureux, c'est la preuve que vous avez une bonne vie. Est-ce que vous vous êtes demandé, vous qui vous dites chrétien par tradition, par éducation, si vous avez déjà souffert pour votre foi au Christ? Qu'êtes-vous, chrétien par tradition, par éducation? Parce que, oui, vous avez été baptisé, on vous a fait votre catéchisme, vous avez communié, puis vous êtes là-dedans parce qu'on vous dit, ah, mais si vous étiez né musulman, vous seriez musulman, si vous étiez né bouddhiste, vous auriez une éducation bouddhiste, alors vous seriez bouddhiste par éducation. Mais est-ce que vous êtes vraiment seulement des chrétiens par tradition et parce que c'est la religion de vos pères? Ou bien est-ce que vous avez une conviction profonde au sujet du Christ? Parce que la vie chrétienne, j'insiste sur cela, c'est la vie même du Christ. Quand Paul a dit, je voudrais que vous fussiez comme moi, hormis ses liens, quelle vie est-ce qu'il avait, lui? Celle du Christ. Il dit, le Christ est ma vie. Philippiens, chapitre 1er, dans une prison romaine, il l'écrira aux Philippiens, aux gens de la ville de Philippe, une ville de Macédoine, le Christ est ma vie. Eh bien, avoir une vie chrétienne, c'est avoir la vie du Christ. Et alors, vous ne souffrirez pas, quand on a la vie du Christ, est-ce qu'on tue? Vous ne souffrirez pas comme meurtrier. Quand on a la vie du Christ, est-ce qu'on vole? Il y a plusieurs manières de voler. Hein. Quand on a la vie du Christ, est-ce qu'on souffre comme malfaiteur? Mais vous direz, mais nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous sommes de braves gens. Vous connaissez cette expression? Je suis un brave homme. Je n'ai fait de mal à personne. Je dis quelquefois, je n'ai jamais tué une mouche. On est menteur. Hein. On en a tué des mouches. Ne serait-ce que les maringouins. Hein. On n'a jamais tué d'une mouche. On n'a jamais fait de mal à personne. Menteur. Que Dieu soit vrai, nous sommes menteurs. Vous savez, Dieu, il a de l'humour. Hein. Mais quand on pense à ce qu'on est, et les illusions qu'on a. Les frères de Joseph, on va le voir ce Joseph, hein, dans cette... Ils avaient vendu leur frère, puis ils se trouvent devant Joseph, mais ils ne savent pas que c'est leur frère, qui est le dirigeant de l'Égypte. Puis, quand Joseph leur dit, vous êtes des espions, parce qu'il veut les mettre un peu haut, et veut les éprouver, qu'est-ce qu'ils répondent? Nous ne sommes pas des espions, nous sommes de braves gens. Les gens qui ont vendu leurs frères, qui ont voulu le tuer, puis qui ont vendu aux Ismaélites, nous sommes de braves gens. Et il faudra tout un travail de Dieu pour qu'ils disent, Dieu a trouvé notre péché. Pendant 20 ans, ils ont camouflé leur péché devant leur père Jacob en disant, une mauvaise bête l'a déchiré. Et ils avaient trempé la robe bigarrée de Joseph dans le sang, puis ils avaient dit, nous avons trouvé cela au désert. Menteur, menteur, menteur. Que Dieu soit vrai, tout homme menteur. Et quand on se trouve dans la lumière de Dieu, on découvre à quel point on a cette tendance à mentir et à se voir tellement bon et tellement beau. Et il faut que l'on soit dans la lumière de Dieu pour qu'on découvre les abîmes de notre nature, de notre cœur naturel, pour qu'on ait tout à coup un dégoût de notre propre vie. Et alors quand on a ce dégoût-là, il n'est pas question de faire comme Monterland, de se suicider. Il est question de s'abandonner au Christ. Et de mourir en lui pour vivre une vie nouvelle, même si on est déjà âgé. Cette vie nouvelle peut commencer pour vous. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est cela qui est si merveilleux. Avez-vous vu votre vie dans la lumière de Dieu? Moi, il y a 50 ans que j'ai dû la voir dans la lumière de Dieu. Et je m'en souviendrai toujours. À ce moment-là, j'ai compris à quel point j'étais pécheur. Né dans une famille chrétienne, bien élevée, tout ce que vous voulez, entouré des prières de mes parents, mais tout à coup, j'ai découvert ce qui pouvait se trouver dans mon cœur, tous les germes qui s'y trouvaient, et j'ai fait faillite devant Dieu. Et j'ai su que j'avais besoin d'un sauveur, et que je n'avais plus maintenant un sauveur en peinture, mais que j'avais un vrai sauveur, parce que je n'étais pas un pécheur en peinture. Et que je ne pouvais pas subsister devant Dieu. Quand j'ai eu la révélation de ce que Dieu était, je me suis dit, mais si je devais être mis à nu devant Dieu, je voudrais être sans pied sous terre. Pas nécessaire. Reconnais que tu es pécheur, c'est tout ce que Dieu te dit. Il n'y a point de juste, pas même un seul, donc pas même nous. Et il nous dit que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes, mais qu'il nous a tant aimés, qu'il nous a fait grâce, et qu'il nous dit, il nous donne pour couverture la vie même de Jésus. Alors, cette vie de Jésus qu'est-elle? C'est pas la vie du petit Jésus, hein, parce que je comprends. Même à Noël, vous allez de nouveau voir des crèches, hein, et puis le petit Jésus, on va vous parler du petit Jésus, du Père Noël. C'est ça, c'est de la caricature, c'est du folklore. La vie de Jésus, sa vie de l'homme de Galilée, celui qui disait, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, si vous n'en avez pas marre, quelquefois, est-ce que vous n'êtes pas fatigués et chargés? Il disait, venez à moi, je vous soulagerai, vous trouverez du repos, le repos de vos âmes. Eh bien, je vous décris brièvement cette vie de Jésus et vous la méditerez vous-même. Cette vie de Jésus, elle se manifeste en nous par un certain bonheur. Premier point. Je ne vous dis pas par n'importe quel bonheur, hein, un certain bonheur. Ce bienheureux les pauvres dont il parlait. Bonheur peut-être paradoxal, mais bonheur quand même. Pas seulement d'une pauvreté matérielle qu'il est parlé ici, c'est pas seulement les pauvres matériels. Mais il y a des riches qui sont tellement pauvres et qui auraient besoin de ce bonheur. Ils sont riches, mais leur richesse ne leur a pas donné leur bonheur. L'autre jour, j'étais à la maison Saint-Isaïe à Jérusalem et je parlais avec mon ami, le père Bruno Hussard, qui est un dominicain, et il me disait, tu sais, c'est pas seulement les pauvres matériellement qui ont besoin du sauveur, c'est aussi ces riches qui n'ont aucune paix et aucune sécurité dans leur richesse. Un certain bonheur. Ce bonheur dont l'homme a soif. Eh bien, la vie de Jésus nous donne ce certain bonheur. La vie de Jésus me donne une certaine écoute. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, disait Jésus, car rien de caché ne pourra rester couvert. Tout ce qui est caché sera un jour découvert. Rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. La vie de Jésus nous donne une certaine écoute. La vie de Jésus nous donne un certain regard, le troisième point. On ne voit plus comme avant. Jésus disait, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui voient qui ne voit point voit, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Un certain regard sur votre vie, un regard que vous n'avez peut-être encore jamais eu. La vie de Jésus nous donne un autre regard sur notre vie. La vie de Jésus nous donne aussi un certain langage. Un certain langage. Il fait parler les muets, disait-on. Et voyez-vous, je me dis souvent, pourquoi est-ce qu'on a tant peine à parler de Jésus? Parce qu'on ne l'a pas écouté. Comment est-ce qu'on devient muet? C'est quand on n'a pas entendu. Hein? Un enfant est muet parce qu'il n'entend pas. Alors il est muet. Eh bien, écoutez. Et puis vous pourrez parler. C'est pourquoi je vous dis, restez dans le silence, écoutez-le. Et alors, vous aurez des paroles et vous aurez un certain langage. Vous pourrez parler de Jésus, de ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Une certaine démarche. Vous marcherez comme lui. À marcher, vous aurez un but, vous suivrez un chemin, vous verrez les empreintes de ses pas, et puis cette marche sera paisible elle sera joyeuse. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein midi. Vous connaîtrez une certaine douceur, non pas cette douceur mielleuse. Mais Jésus était doux, est-il dit, et humble de cœur. Mais en même temps, il avait pour les hypocrites des paroles de feu et d'acier, une certaine humilité, une certaine tendresse, un certain courage, une certaine souffrance, une certaine liberté, une liberté qui engage. Vous pourrez faire autrement que tout le monde. Vous ne pourrez plus dire « Je suis obligé de faire comme tout le monde le fait. » Mais vous aurez une liberté en vous, un certain humour, je le dis aussi. Oui, un certain humour. Car un amour sans humour, c'est un amour pesant. Le Seigneur vous donnera cet humour, caractère de la vie de Jésus. Est-ce que vous l'avez dans votre vie pour l'avoir? Eh bien, il suffit de le recevoir. Et je termine, car l'heure est arrivée. Il y avait un homme que j'ai bien connu, c'était le médecin de mon village. Il se mourait dans un hôpital de Lausanne. Et il a dit à sa femme, « Prends ta Bible. » Et elle n'était pas encore croyante à ce moment-là. Elle a pris sa Bible. Lui, il était fils de pasteur, mais ne croyant en rien. Puis, elle a ouvert sa Bible comme ça. Et ça s'est ouvert au chapitre 1er de Jean. Elle était mariée depuis 3 ans avec ce médecin qui avait 20 ans de plus qu'elle. Et puis, elle a lu ce chapitre 1er de Jean. Quand elle est arrivée au verset 14, il est dit, « Il est venu chez les siens. » Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il lui dit, qu'est-ce que tu as lu? Relis ce texte. Elle lui redit. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il lui a fait relire une troisième fois. Son visage s'est illuminé. Mais comprends-tu, je n'ai pas besoin de faire quelque chose maintenant. Il me suffit de croire, il me suffit de le recevoir. Et il est mort dans la foi. Je vous raconterai une histoire. J'ai connu cette personne. Dieu notre Père, qu'il y ait dans cette journée de ces hommes et de ces femmes qui, à l'écoute de ta parole, la croient. Cette parole que nous venons d'entendre, que nous puissions la recevoir dans nos cœurs et que tu nous prépares pour les heures que nous allons encore vivre ici, dans la joie et dans la visitation de